liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, cette émission a été créée par les Gilets jaunes. Elle a évolué pour s'affirmer comme un espace de parole ouvert à toutes et à tous, citoyens, habitants sur notre territoire et ayant quelque chose à dire ou des initiatives à partager concernant notre vie commune, nos biens communs. Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent, ici les citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications pour une société plus juste, plus solidaire. Vous voulez réagir? Voici notre mail. paroledecitoyen@frequence7.net, minuscule singulier tout attaché. Nous lisons tous les mails que vous nous adressez. Au menu du jour, comme à notre habitude, une entrée, un plat de résistance et un dessert. En entrée, les citoyennes en action sur notre territoire. En plat de résistance, Gilets jaunes, 6 ans déjà, accompagné d'un film musical autour de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et nous terminerons toujours en solidarité avec le peuple palestinien, génocidé, et tous les peuples du Moyen-Orient victimes des guerres, en partageant avec vous une recette d'un des pays du Levant. Surtout, prévoyez papier et crayon. Bon appétit!
Alors, avant d'attaquer avec nos entrées, nous allons écouter une petite musique, toujours dans le fil qu'on vous a annoncé, de Leslie Gore, « You Don't Own Me ».
Alors, dans le cadre de la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, j'étais samedi 23 novembre à la cantine populaire pour partager un moment d'échange et d'entraide à l'initiative du collectif féministe du 8 mars d'Aubenas. Il y avait plus de 70 personnes qui ont participé, même bien 80-90 parce que j'y étais, autour d'un repas. Ce repas les fonds qui ont été récoltés lors du repas ont été entièrement récoltés pour la caisse de solidarité pour les victimes de violences sexistes et sexuelles. Il y avait aussi un atelier d'autodéfense pour les femmes l'après-midi. Comme tous les samedis, vous le savez, nous nous réunissons encore à l'Agora. Par rapport au cessez-le-feu qu'on demande par rapport à Gaza et tout ce qui se passe au Moyen-Orient, la guerre qu'il y a au Liban. Donc un mandat d'arrêt contre Netanyahou a été lancé par la Cour pénale internationale. On peut quand même se demander quelles poursuites seront engagées contre les soutiens de cet assassin, dont pas mal de dirigeants français, d'entreprises françaises, etc., soutiennent ce personnage. On peut rappeler aussi le 4 décembre à 18h au cinéma Le Navire, il y aura une projection débat avec le film palestinien No Other Land. On va faire une petite halte musicale avec Anne Sylvestre, s'il te plaît Sylvain.
La maison depuis ce crime n'a plus d'âme ni de nom, mais elle n'est pas victime, c'est de sa faute, dit-on. Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie avec sa toiture neuve et son jardin bien fleuri. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit.
Alors aussi, dans le cadre de notre entrée, des mobilisations qui sont en vue ici et ailleurs, des grèves et des manifestations sont annoncées partout à partir du 11 décembre, dès le 10 même. Après une première journée tir de semonce qui a lieu le 5 décembre, beaucoup de secteurs d'activité de France se mobilisent et rentrent en grève à partir du 12 notamment. Et comme le 12 c'est le jour de notre prochaine émission, on vous en parle tout de suite pour que vous ayez un peu des infos. Il s'agit d'une journée de convergence de toutes les luttes lutte pour l'emploi devant la succession de licenciements qui sont annoncés et déjà en cours un peu partout en France. Il n'y a pas un jour sans qu'on en annonce de nouveau. Encore cette semaine, on nous a parlé de ArcelorMittal, qui, je le rappelle, est la fin, le reste final de la sidérurgie française qui était glorieuse à une époque. Début novembre, on recensait plus de 180 plans de licenciement dans toute la France concernant plus de 100 000 emplois directs et indirects, essentiellement dans l'industrie, et ça n'est qu'un début parce qu'on sait qu'ensuite ça s'enchaîne dans le monde de la distribution, du commerce, etc. C'est aussi globalement contre l'austérité et pour l'augmentation des salaires que ces mobilisations ont lieu, et dans le même temps, elles vont se rencontrer, se joindre avec les mobilisations des fonctionnaires à partir du 11 décembre contre les fameux 3 jours de carence annoncés par Barnier et pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de leur et de travail. Alors, des manifestations sont annoncées en Ardèche, sur les 3 territoires principaux. On n'a pas encore les heures, mais restez à l'écoute de Fréquence 7, vous le saurez.
Alors, on va passer au plat de résistance, les Gilets jaunes, 6 ans déjà. Depuis un mois, nous avons abordé l'historique du démarrage de ce mouvement populaire exceptionnel et de certaines de ses caractéristiques. Spontanéité, liberté de parole, place des femmes, réappropriation de l'espace public. Aujourd'hui, nous terminons cette série en mettant l'accent sur un point important, la répression que le gouvernement a exercée sur eux, d'une violence inouïe jamais vue depuis le début du XXe siècle. Très rapidement, sous la direction du ministre de l'Intérieur Castaner, du préfet de Paris Lallemand et du barbouze Benalla, la répression s'abat sur les citoyens manifestants. Des gens qui souvent manifestent pour la première fois de leur vie se trouvent soumis à des interdictions hallucinantes. Empêchement à atteindre les lieux de manifestation, blocage des véhicules sur les autoroutes, arrestation préventive de toute personne revêtue d'un gilet jaune, nassage sur place. Une nasse, c'est comme à la pêche, on te fait entrer par un endroit, on t'interdit d'en sortir et on te tabasse ou te tire dessus. Et les forces de l'ordre utilisent contre ces manifestants familiaux des armes partout ailleurs interdites d'usage contre la population. Des armes létales qui peuvent tuer sont utilisées avec tir tendu et ou à bout de bras, à bout portant, à hauteur de visage ou de poitrine. Dès la 3e journée d'action des Gilets jaunes, le 1er décembre 2018, des CRS sont filmés tabassant à terre des manifestants à l'intérieur d'un Burger King à Paris. Là comme ailleurs, l'institution ferme les yeux et fait preuve de beaucoup de clémence vis-à-vis des policiers en cause. Tous les agents soupçonnés ont été couverts par leur hiérarchie et ont même fait l'objet depuis d'éloges et de promotions. Ils n'ont fait l'objet d'aucune sanction interne. 9 agents ont été mis en examen pour violence. Fin juillet 2024, le parquet de Paris a requis leur renvoi vers le tribunal correctionnel. Que va décider le juge d'instruction, 6 ans après? Ce jour-là, le ton était donné pour la suite. Dès lors, des équipes de street medic se sont créées chez les Gilets jaunes, doublées d'équipes juridiques. Ce fut le cas à Aubenas. Nationalement, un réseau robe noire et gilets jaunes regroupant des avocats, soutien des manifestants, s'est créé et a permis dans la France entière d'organiser l'aide juridique dont de nombreux gilets jaunes ont eu besoin.
Après ce rappel de situation, un petit morceau de musique dans le fil d'autres types de violences, les violences faites aux femmes, de Camille Lelouch, N'insiste pas, merci Sylvain.
N'insiste pas, j'ai plus confiance, j'arrive plus à te pardonner. J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. N'insiste pas, ouais, je n'en peux plus, ouais. Je suis foutue, hey. Je te dis que je suis foutue. Me laisse qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête.
Alors nous avons souhaité inviter à notre émission Sébastien, gilet jaune du Sud Ardèche, qui fait partie des victimes de tirs de grenade. À ce jour, le procès suite à sa plainte n'a pas eu lieu. Il espère d'ici 1 à 2 ans que ce procès aura lieu. Très affecté par ce qui lui est arrivé, Sébastien ne sera pas physiquement présent aujourd'hui. Voilà pourquoi nous, Dominique, tu pourras prendre ces mots pour parler. On va faire une sorte de témoignage, en fait. Donc ça commence. Dominique, je te laisse dire ces premiers mots.
Oui, donc nous allons vous restituer la parole de Sébastien, qu'il a gentiment écrit et transmis. C'est sur la base d'un écrit qu'il a fait quelques semaines après ce qui lui est arrivé. Je ne me sens pas trop d'en parler tout de suite. Au mois de juin, chez le médecin légiste, il m'a gardé 3 heures et ça s'est pas bien passé du tout. J'ai encore beaucoup de mal à en parler. Par contre, je peux te faire parvenir mon témoignage de ce jour maudit.
Nous allons donc vous lire des extraits de son témoignage et nous le remercions de sa confiance. Son témoignage a été écrit quelque temps après ses blessures.
Avec mon frère Cyril, nous avions l'habitude depuis le 17 novembre 2018 de manifester pacifiquement à Aubenas tous les samedis. Après que le préfet ait décidé de vider les ronds-points, j'ai eu confirmation qu'il n'y aurait pas de marche pacifique à Aubenas le 12 janvier 2019. Du coup, avec mon frère, on est parti à l'Est pour rejoindre les gilets jaunes du Gard. Je signale que Sébastien habitait Auvence à l'époque. À Alès, il n'y avait pas de gilets jaunes. Nous avons suivi les motards gilets jaunes jusqu'à Nîmes, où vers 14h30, nous avons rejoint les gilets jaunes en train de faire une marche pacifique en centre-ville. Tout était calme. Pourtant, il y avait beaucoup de monde. Les gens chantaient, criaient des slogans pacifiques. Comme tous les samedis à Aubenas, c'était bon enfant. Arrivés aux arènes, les forces de l'ordre nous attendaient et nous ont laissé entrer sur le grand parvis qui est devant les arènes et ont ensuite bouclé les rues pour ne plus nous laisser sortir.
Voilà une pratique policière ultra dangereuse et théoriquement interdite, le nassage.
J'ai dit à mon frère qu'on pourrait sûrement sortir par le boulevard qui mène à la gare. À ce moment-là, ça commençait à chauffer entre les casseurs et les forces de l'ordre. Alors on a couru le plus vite possible pour partir. Mais la compagnie de CRS s'est mise à charger sans sommation. On a couru plus vite pour se mettre à l'abri. Mais à ce moment, les forces de l'ordre ont lancé plein de lacrymogènes et on n'y voyait absolument plus rien. Là, j'ai commencé à avoir vraiment peur. Je me retourne pour courir et là, tout d'un coup, j'ai cru que ma tête se décrochait. Je n'ai jamais ressenti une telle douleur. Mon frère m'a dit « T'es touché, frangin, tu as été touché par une balle de LBD. » Comme dans les films de guerre. Apparemment, mon frère a vu le tireur à moins de 30 mètres. Heureusement, les formidables street medics sont arrivés et m'ont pris en charge de suite sur les marches de la Banque de France. Les forces de l'ordre continuent à tirer. Un street medic leur a demandé d'arrêter de tirer vers nous. Là, je pense à ma petite famille. Si c'est grave, comment ils vont faire et comment l'annoncer à mes enfants de 7 et 13 ans? À ce moment-là, toujours dans une ambiance de guerre, les street medics m'annoncent qu'il y a sûrement mâchoire cassée. Ils appellent le 15 qui leur donne rendez-vous de l'autre côté des arènes.
Sébastien nous décrit comment ils partent, lui sur brancard de fortune porté par des street medics et son frère. Durée 45 minutes, devant passer bras levés devant les forces de l'ordre qui continuaient à tirer.
Arrivé devant les arènes au passage du premier barrage, un CRS m'a dit « T'avais qu'à partir avant ». Et un autre m'a dit « On se retrouvera ». Du coup, j'avais peur qu'il me suive à l'hôpital.
Puis à nouveau, Sébastien nous décrit des tirs de lacrymo, obligés de s'arrêter et s'abriter. Arrivé au lieu de rendez-vous, Street Medic appelle le SAMU, qui répond qu'il faut aller à un autre endroit à 20 minutes. Pendant tout ce temps, pas d'antidouleur. Ils aperçoivent une voiture de pompiers pas loin, et c'est finalement eux qui le prennent en charge. Arrivé à 18h14, aux urgences à l'hôpital. Une salle spéciale pour les gilets jaunes.
Avec des lits de camp au sol et un petit drap pour ne pas avoir froid, décrit Sébastien.
Le médecin ORL, qui l'ausculte, lui dit que les dents du haut et du bas sont touchées, mais que la priorité est recoudre ses lèvres pour éviter des déformations. Il lui fait 18 points de suture sous anesthésie locale pendant 35 minutes. Pas de scanner pour vérifier les atteintes internes. Et à 23h30, on lui dit de rentrer chez lui avec une ordonnance d'antibiotiques et du doliprane, plus voir son dentiste, se faire enlever les points dans 10 jours. Sauf qu'il n'est pas en état de conduire, que son frère n'a pas le permis. Il demande à rester la nuit en observation et ça lui est refusé. Il demande un bon de transport qui est refusé. Son état, selon eux, ne justifie ni l'un ni l'autre. On lui dit d'appeler un taxi pour rentrer chez lui à 80 km. On lui refuse des antidouleurs au prétexte qu'il a une ordonnance. un samedi soir à 23h30, à 80 km de chez lui à pied. Une infirmière lui en dépanne un petit peu. Sa compagne, coincée en Ardèche avec leurs enfants et sans voiture, a réussi à trouver des amis qui sont venus le chercher 2 heures après.
C'était pas un moment facile. Je me retrouvais aux urgences avec mon frère, gilet jaune pacifique, défiguré, fatigué, en ayant très mal et ne sachant pas si ma mâchoire était cassée ou pas. Nous qui voulions faire une marche pacifique, on s'est retrouvés dans une vraie guerre civile, avec les bruits, les odeurs et les cris. Je tiens quand même à souligner que les forces de l'ordre agissent beaucoup en effet de surprise. Et du coup, les gilets jaunes pacifiques, qui sont pour la plupart des retraités et des familles, n'ont pas le temps de s'enfuir. Le lendemain, mes enfants ont découvert la tête de leur papa défigurée. Celui de 7 ans n'a pas voulu me regarder pendant 7 jours, a cru que j'allais mourir et a eu de gros problèmes à l'école, traumatisé par la situation. Le lundi matin, je suis allée voir mon médecin qui s'est interrogé sur ma sortie d'hôpital bizarre, sans plus d'examen et sans anti-inflammatoire.
Le dentiste de Sébastien a aussi été très choqué par sa blessure. Ne pouvant ouvrir la bouche pour une radio panoramique, il a découvert une fissure à la mâchoire du bas. Il envoie aux urgences d'Alès où le stomato fait un scanner et découvre une fissure aussi en haut. Il est décidé d'attendre que les fissures se ressoudent, etc.
Tout cela nous a coûté beaucoup d'argent, frais médicaux, déplacements, frais de garde des enfants, etc. Et frais de justice, bien sûr.
Sébastien n'a pu travailler dans les différentes saisons prévues cette année-là. Taille de vigne est responsable de salles en restauration à la grotte Chauvet 2. Mais sans dents et sans argent pour les remplacer, ce métier était peu envisageable à court terme. Actuellement, Sébastien est séparé d'avec la mère de ses enfants et travaille comme facteur. Toute une vie changée et des blessures de l'âme encore à vif.
On reprend le film musical avec Chila, balance ton porc. Merci Sylvain.
Non, pas de chasse, sorcière. Élève ta voix si t'as le choix, c'est très grave ce qui se passe. Derrière un mort, un cortège, tous les assassinats, les stigmates, les jugements mitraillent. Nier les tabous, en effacer les traces. Le bourreux se cagoule et n'a pas de race. On te tabasse quand tu labours, on prend ton âme, on te sabote, même l'amour t'a brisé en quatre.
L'Observatoire des Street Medics a publié des rapports annuels sur les blessures constatées. Ainsi, son rapport courant du 23 février 2019 au 14 mars 2020, incluant gilets jaunes et lutte pour les retraites, où gilets jaunes et syndicats étaient ensemble, juste avant le Covid qui a tout stoppé. Ce rapport met en évidence, sur la base de quelques lieux de manifestations observés, 2841 victimes ayant été prises en charge par leurs équipes, plus 29 500 décontaminations superficielles des gaz lacrymogènes, hors des contaminations longues prises en charge. 92% des victimes prises en charge ont été blessées par les armes, manœuvres et actions des forces de l'ordre.
Parmi ces victimes, 2/3 des atteintes sont des blessures traumatiques, principalement aux membres et à la tête, provoquées par des frappes de tonfa et de matraque, lanceurs, LBD et flashball et grenades cinétiques. Plus d'une blessure traumatique sur 6 est située à la tête et jusqu'à 43,8% pour les seules frappes de matraque et tonfa. Il s'agit d'un taux particulièrement inquiétant au vu des risques pour la santé et la sévérité des blessures associées à cette zone. 1/3 des victimes souffrent de troubles non traumatiques, principalement respiratoires et anxieux, résultant de l'exposition à des agents lacrymogènes. Les gaz lacrymogènes sont notamment responsables d'un taux très important de victimes non manifestantes, avec entre autres 8,8% de passants enfants de moins de 12 ans et de personnes de plus de 80 ans. Sur la base de ces mesures, on apporte donc une nouvelle estimation globale de presque 30 000 personnes qui auraient été blessées dans les manifestations sur l'ensemble des mouvements gilets jaunes et retraites, c'est-à-dire une prévalence 5 fois supérieure à celle qu'il y avait dans les autres rassemblements jusqu'à présent, avec 6,18 victimes pour 1 000 participants. Ainsi, il y a eu à peu près 330 000 personnes affectées par les gaz lacrymogènes. De la même manière, la répression s'est abattue de façon aveugle sur les street medics autant que sur les manifestants, ce qui nous rappelle de mauvaises heures qui se passent actuellement dans d'autres endroits.
Alors, Amnesty International, de son côté, a aussi relevé les violences au-delà des pratiques proportionnées acceptables tout au long du mouvement. Il note dans un article de novembre 2019 24 manifestants éborgnés et 5 mains arrachées. Parmi les victimes se trouvent des manifestants pacifiques, mais aussi de simples passants, ainsi que des journalistes et observateurs. Le 2 février dernier, c'est un observateur de la Ligue des droits de l'homme qui a été évacué à l'hôpital après avoir été touché en pleine tête par un tir de projectile de la police. Les Nations Unies, le Défenseur des droits ou le Conseil de l'Europe se sont tous inquiétés de l'usage excessif de la force en France et des restrictions que cela entraîne sur le droit pour les personnes de manifester pacifiquement. Ces violences ont eu clairement comme effet d'éloigner des manifestations une grande partie des gens, notamment les familles. Cette méthode violente pour dissuader le peuple d'user de son droit d'expression s'est généralisée depuis à toutes les manifestations.
Et maintenant, la dernière chanson de notre fil spécial violence, qui s'applique aussi bien aux violences sexistes qu'aux violences policières.
Nous chantons sans peur, nous hurlons vos noms, exigeons justice pour vos disparitions. Pour rester vivantes ensemble, nous luttons. À bas le féminicide, nous le détruirons.
Alors je crois, Dominique, qu'il est temps de passer au dessert, ou que c'est un peu... C'est possible de dire encore autre chose ?
Non, je pense que là, l'heure tourne. Hein. Bon, voilà, on a fait le tour de la question de la répression et on aura l'occasion d'y revenir d'autres fois.
Alors, tu as choisi un extrait d'un groupe libanais. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce groupe ?
Alors, d'abord, ça ne date pas tout à fait d'aujourd'hui, ça date de 2014, mais c'est pour dire que les mêmes sujets traversent toutes les sociétés et que ce groupe de rap libanais avait sorti cette chanson à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Il n'y a pas qu'en France, il n'y a pas que dans l'Occident évolué, comme le croient certains, que les combats des femmes ont lieu.
On vous fait écouter l'extrait.
كل الناس عم تصنلنا تحكمها بالنسيان ضعف الاحساس لو خلاص عم ينكرها هالانسان والايمان بغيب المرأة حقوقها بتنهدر الكفر عم يعيب عم يحكم بقلوب البشر الذنب ما بينغفر
هالايد عليا تنمج
اجى الوقت اللي ينحط
سيف فيه علم حد
ينشد وما ينصد كل انسان على حاله يزيد الرد وما تحتد مش معقول هيك ربينا بدنا العنف يتوقف يتحاكم كل مسؤول مفكر ممكن انه الظلم عغيره رح بيقول معد مقبول العنصرية البشرية تفرقة بالأجناس تمد فينا الحكم الإنساني الهامشية.
Alors, aujourd'hui, on va préparer la tarte au zaatar. Je vais faire la liste des ingrédients et Dominique, tu nous parleras du procédé. Donc, pour les ingrédients, pour la pâte, il vous faut 180 g de farine T55, 90 g de beurre froid coupé en petits morceaux, un œuf entier, 5 g de sel, 5 cl d'eau glacée à ajuster, une cuillère à café de zaatar, une cuillère à café de paprika. Pour la garniture, 300 g d'épinards frais, 2 pommes de terre déjà cuites à l'eau avec la peau, l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe de feta écrasée, du zaatar, donc la composition c'est du sumac, du thym et des graines de sésame, une échalote, quelques feuilles de coriandre fraîche, fleur de sel, poivre du moulin, huile d'olive.
Alors pour préparer la pâte, pour commencer, dans un saladier vous mettez farine, sel, paprika et zaatar. Vous ajoutez l'œuf et le beurre et vous mélangez bien. Ensuite, vous ajoutez l'eau et vous mélangez jusqu'à ce que la pâte commence à bien s'amalgamer. Vous sortez la pâte, vous faites une boule, vous mettez un peu de farine sur le plan de travail et avec le bas de la paume de la main, vous l'écrasez vers le haut, c'est ce qu'on appelle fraiser la pâte. Formez une boule, l'aplatir, puis l'envelopper dans un film étirable et la placer au frais pendant une heure. Pendant ce temps, vous préparez la garniture. Épluchez les pommes de terre et les coupez en rondelles. Les faire cuire dans un peu de beurre avec l'échalote ciselée jusqu'à ce qu'elles prennent de la couleur. Vous mettez ça de côté, vous égouttez les épinards et vous les lavez à grande eau comme vous faites d'habitude. Mais par contre, cette partie, je vous conseille de le faire un peu en avance parce que les épinards, il faut qu'ils soient bien égouttés après ça. Vous ajoutez une grosse noix de beurre dans une sauteuse et vous ajoutez les épinards. Lorsque les épinards sont bien cuits, les retirez de la sauteuse et les coupez au couteau. Replacez les épinards dans la sauteuse, ajoutez les pommes de terre, écrasez la feta, puis l'ajoutez aux légumes. Bien mélangez le tout, salez, poivrez et saupoudrez d'un peu de zaatar. Continuez la cuisson tout en mélangeant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau rendue, faire refroidir. Vous sortez votre pâte du frigo et vous l'étalez finement entre deux feuilles de papier cuisson en essayant de former un bon rond. Retirez la feuille du dessus, ajoutez au centre de la tarte la garniture refroidie, vous repliez les bords tout autour en laissant le centre à découvert. Préchauffez le four à 200 degrés, enfournez et cuire 30 à 35 minutes. Vous décorez ensuite avec des feuilles de coriandre fraîches et vous mangez chaud avec une salade.
Bon appétit. Et il est temps de conclure. Alors, je vous rappelle le mail de l'émission. Donc, paroledecitoyen@fréquence7.net, tout attaché à un singulier. Et on se dit à dans 2 semaines. À bientôt, Dominique.
À bientôt. Au revoir.
Merci à Sylvain. Au revoir.
Liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con. On les consacre que leur sacré compte.